Comment allez-vous tout le monde? Bienvenue à Sortie de zone, spécial balado du temps des fêtes. Ici Mario Langlois. Ouais, je pourrais porter le costume quand même. J'ai du rouge, hein, vous avez remarqué. En compagnie de Philippe Quentin et Alexandre Pratt. Salut les gars.
Salut, salut Mario, salut Alex.
Comment allez-vous?
Très bien, je me sens comme l'elfe de Noël et non pas comme la grêcheuse présentement.
Non, mais tant mieux. C'est sûr que la façon dont le Canadien a amorcé son voyage dans l'Ouest, il y a un petit peu moins de place à grincher. Hein? Mais c'est pas là-dessus qu'on va consacrer le propos aujourd'hui, puisque dans le fond, je pense que l'occasion est belle de réfléchir à quelques sujets qui sont plutôt intemporels. Par exemple, les gars, si je vous demandais comme ça, alors qu'on regarde évoluer les meilleurs juniors au monde pendant le championnat du monde de hockey junior, les gars, c'est l'occasion de voir les plus beaux prospects du prochain repêchage. Dans certains cas, Alexis Lafrenière est un nom qui revient souvent. Une question comme ça sur laquelle on pourra débattre jusqu'au prochain repêchage, croyez-vous qu'il y a moyen pour une équipe, et bien sûr que je pense aux Canadiens en posant la question, d'aller chercher le tout premier choix repêchage via une transaction? Y a-t-il moyen de d'ébranler un DG, Alexandre Pratt?
Ben, dans la vie, l'argent achète pas mal de choses. C'est vrai que beaucoup de cas. Souvenons-nous d'ailleurs que quand Eric Lindros avait été échangé, Philippe pourrait me corriger, mais je pense qu'il y avait eu, en plus de tous les joueurs, tous les choix, je pense qu'il y avait eu 15 millions de dollars.
Tout à fait.
Qui était passé d'un côté à l'autre. Maintenant, la Ligue nationale a changé. C'est assez intéressant parce que depuis 2008, donc dans les 10-11 derniers repêchages, il n'y a aucun choix parmi les quatre premiers qui a été échangé dans la Ligue nationale. Donc le choix le plus élevé qui a été échangé, c'était en 2008, c'était le cinquième choix et c'était Luke Chen à l'époque des Maple Leafs qui avait été échangé contre le 7e, le 37e et le 68e. Donc de façon réaliste, est-ce que ça serait possible? Oui, probable, peut-être moins, mais il faudrait vraiment que le Canadien soit chanceux, gagne la loterie, soit deuxième ou troisième.
Ça prend une grosse monnaie d'échange.
Ouais, ça prend une très grosse. Donc, peut-être deuxième, troisième. Déjà, troisième, ce serait plus difficile parce que je pense que Lafrenière et Byfield sont vraiment identifiés comme étant les deux premiers. Mais peut-être qu'avec le troisième, ça serait possible. Mais le Canadien devrait donner, là, même si c'était le troisième contre le premier, là, un nombre incroyable de prospects. Là.
Ouais. Ouais, mais ça s'est déjà fait au football. Je ne sais pas si vous vous souvenez, en 1999, Ricky Williams, qui était le porteur de ballon recherché par toutes les équipes. Il y a une équipe qui avait cédé tous ses choix au repêchage de cette année-là pour obtenir le droit de repêcher Ricky Williams. Ça n'a pas été finalement très heureux, mais ça s'est fait. C'était les Saints de la Nouvelle-Orléans qui avaient pris ce risque-là. Mais moi, j'aimerais ça qu'une chose comme celle-là arrive. Et je regarde un peu les équipes qui pourraient être, ou l'équipe qui pourrait être la plus susceptible de réaliser un truc comme celui-là. Bien sûr, c'est le Canadien, pour des raisons évidentes. D'abord, ça serait une méga star potentielle québécoise, francophone.
Coup de circuit.
Ben oui, ça serait ça, ça serait extraordinaire. Mais le prix à payer serait colossal. Maintenant, est-ce que le Canadien devrait accepter d'examiner cette idée-là? Très certainement, parce que, puis je pense qu'on va en parler tantôt, on compte plus le nombre d'années depuis la dernière Coupe Stanley. On sait très bien que ça arrivera pas ce printemps non plus, le printemps qui vient. Donc, frapper un coup de circuit comme celui-là, prendre ce risque-là, quand une équipe, bon, repêche à la maison, en plus, je comprends que c'est plus anecdotique qu'autre chose, mais ça ajoute un peu à la tension dramatique du prochain repêchage. Mais surtout, le Canadien a énormément de choix en banque, a beaucoup de jeunes joueurs, mais là, il faudrait être prêt à céder des joueurs qu'on aime, parce qu'un échange comme celui-là, tu sais, ça fait mal. Je me souviens, je vais juste vous raconter une anecdote. Quand j'écrivais la biographie de Serge Chavard, Serge a négocié tout à coup avec les Nordiques pour les droits sur Eric Lindros, qui ont finalement été échangés à Philadelphie.
Oui.
Puis il raconte dans le livre qu'il avait rencontré Marcel Aubut. Puis là, Marcel Aubut, il avait dit, Serge, faut que ça te fasse mal, ta proposition.
Mais c'est une bonne ligne.
Joueurs. C'est ça. Alors, faudrait que ça fasse mal aux Canadiens, mais pour repêcher par la suite.
Il y a rien d'impossible. C'est sûr, là. OK, on va prendre la proposition la plus folle. Si le Canadien arrive à l'équipe qui a le premier choix au total et dit, on vous donne nos 30 prochains choix de première ronde, l'équipe, elle va dire oui, là. OK, c'est sûr. Mais du moment que tu sais que l'autre équipe peut dire oui, ben là, après ça, c'est, OK, tu descends à combien? Est-ce que c'est 5 choix de première ronde plus Primo, plus Peeling, puis plus Romanov? Tu sais, est-ce que c'est 4 choix de première ronde plus, puis là, t'ajoutes dedans Gallagher, Suzuki. Ouais, c'est sûr, Suzuki, ça serait faire partie de ce deal-là. Mais là, après ça, c'est juste coup.
Ça fait mal, Philippe.
Ben, ça fait mal.
Ça fait mal.
Il
faut que ça fasse mal.
On va parler, on jase, là, puis la première, à mon avis, ne sera peut-être pas aussi bon là, que McDavid là, pour plein de raisons. Mais on va prendre pour la base McDavid. Qu'est-ce que ça prendrait pour que le Canadien acquiert McDavid? C'est sûr que Suzuki est dans l'échange. Sûr. Suzuki, probablement 5 choix de première ronde. Puis là, t'ajoutes après, là, c'est pas fini. Là. Après ça, ça va être un gardien de but, ça va être deux défenseurs réguliers, ça va être Gallagher. Mais tu sais, ça va prendre un package de, au total, là, 7-8 choses.
Ça dépend
où est le Canadien. Si le Canadien est troisième au total, non. Mais si le Canadien repêche en 10 puis 20,
c'est juste un décalage de quelques choix par rapport à l'inversion des choix. Comme, c'est qui avait fait ça à Vancouver pour les Sedin? Je me rappelle pas exactement dans quel ordre, mais...
Ouais, sauf que maintenant, tu sais, Lafrenière est déjà mieux perçu que les Sedin l'étaient même à l'époque. Et ceci dit, le Canadien a 12 choix dans le prochain repêchage. Il peut se permettre là, d'en mettre des 5, des 6 choix pour remonter.
Il faut absolument que dans une transaction comme celle-là, tu donnes beaucoup de jeunes joueurs. Pourquoi? À cause de la question salariale. Si tu peux pas donner tous des gars à gros salaire, le Gallagher, ça va être quoi son prochain contrat? Il faut que l'équipe qui acquiert les services soit capable d'absorber le salaire dans sa masse. Alors, si tu donnes, tu sais, tu peux pas dire, on va donner Price, Weber, puis Gallagher. Voyons, juste au niveau salarial, ça pourrait pas fonctionner pour l'équipe qui accueille. Alors, faut que tu donnes des jeunes joueurs qui sont, évidemment, en situation d'agent libre, de joueurs autonomes avec restrictions.
L'autre chose, c'est que clairement, le club qui va avoir probablement le premier show total, si c'est un qui est dans la cave, c'est un club aussi qui a besoin d'une star là, pour se lancer. Si on pense, par exemple, à Los Angeles, on pense à Chicago, on va passer par New Jersey, ça va peut-être dans une autre situation. Peut-être que New Jersey, d'ailleurs, c'est eux qui écouteraient plus que d'autres clubs. Là. Mais, tu sais, Los Angeles, Chicago, avoir une star comme Alexis Lafrenière, qui a déjà un contrat...
Qui va tourner le dos?
Qui a déjà un contrat avec Upper Deck, mettons. Écoute, là, c'est dur de dire non. Tu sais, peut-être que New Jersey... Ils ont déjà deux premiers choix totaux dans leur alignement. Peut-être qu'ils seraient plus susceptibles d'écouter.
Puis l'autre façon que j'ai envie de revirer ça, puis c'est sûr que quiconque pense à une telle hypothèse, bon, pense à l'effet potentiellement positif puis aux effets négatifs si ça fait mal à ce point-là. Puis avant de savoir exactement quel serait le prix à payer d'accueillir un jeune homme comme Alexis Lafrenière, jusqu'à quel point c'est positif au point de vouloir te vider les poches pour aller le chercher? Est-ce qu'on fait un autre pas de recul en misant sur un jeune de 18 ans repêché l'an prochain puis donc on culmine dans 5 ans? Comment tu vois ça dans l'intégration de ce côté-là? Si tu te dépouilles de gros morceaux là, ça va te faire mal.
C'est clair. Ça, faut que tu sois prêt à vivre pendant à 18 ans, il va peut-être jouer dans la Ligue nationale, mais il sera pas dominant. Donc faut que tu sois prêt à être patient. Mais moi je pense que moi je le connais pas là, Alexis Lafrenière, je pense que tu l'as rencontré. Alex.
Ouais, je l'ai rencontré
Est-ce que c'est quelqu'un qui serait capable de porter sur ses épaules ce qu'il deviendrait instantanément? C'est-à-dire que du jour au lendemain, s'il devenait le premier choix choisi par le Canadien à Montréal, il devient un héros partout au Québec. Tous les projecteurs sont braqués sur lui. Ça serait une pression, franchement, énorme. Alors, il y a des joueurs que ça peut écraser, puis il y a des joueurs que ça peut, au contraire, ils vont être galvanisés par ça. Alors, lui, comment il réagirait à ça?
C'est sûr, c'est pas piqué sous Ben. On va s'entendre là-dessus. C'est plutôt quelqu'un qui est taciturne, là. C'est un adolescent présentement. T'sais, quand je l'ai rencontré, justement, c'est ce qu'il me disait. Moi, je suis pas encore un adulte, je suis un adolescent, je suis un grand ado. Mais, t'sais, c'est quelqu'un qui aime avoir du fun dans la vie, mais quelqu'un de plutôt réservé. Là. C'est un joueur dans la vie, il aime ça jouer. T'sais, il joue à n'importe quoi. Il va jouer au basketball, au baseball, il excelle dans tout ce qu'il fait. Mais lui, ce qu'il aime, c'est la game. Et là, la game, elle change un petit peu. Là, il est dans un petit marché aussi. Il est à Rimouski. T'sais, il y a pas de quotidien là, à Rimouski qui suit. Ben oui, il y a le soleil, mais ça allait quand même basé à Québec. Il joue pas à Québec, il joue pas à Halifax où il y a plus de pression. Tu sais, de tomber d'un coup de Rimouski aux Canadiens, il y a quand même une très grosse marche. Non, mais par exemple, comparé à t'es pêché par Ottawa. Oui. T'sais, Ottawa, c'est quand même pas c'est un gros marché médiatique, mais c'est quand même pas le même marché que Montréal ou Toronto. Là.
Non, vraiment pas. Et tu places, il y a deux catégories. J'ai envie d'en insérer une potentielle troisième à la lumière d'un article que j'ai lu sur l'analyse de tous les premiers choix de repêchage du Canadien dans les 30 dernières années. Comment Wickenheiser s'est comporté, comment Guy Lafleur est intégré à la formation, comment Sakou Koivu, ça s'est présenté, comment Guillaume Latendresse, ça s'est présenté. Je trouvais ça pas mal intéressant. Ouais. Est-ce que quelqu'un va être écrasé par la pression? Est-ce que quelqu'un va être galvanisé? Puis je sais pas si dans une des deux catégories, mais est-ce que une telle exposition à la célébrité aussitôt dans une carrière te fait perdre un peu, comment dirais-je, te fait enfler la tête? Parce que semble-t-il qu'en rétrospective, c'est arrivé à quelques-uns, et il y en a même qui se posent la question à savoir si c'est pas arrivé à Jesperi Kotkaniemi par rapport à la façon dont il était accueilli, qui a été porté au nu, et là, tout à coup, rien ne va pour lui, et on dit qu'il a peut-être pas fait l'entraînement qu'il aurait dû faire cet été. Je dis pas qu'il en a pas fait, mais peut-être qu'il a pensé que finalement, ça serait pas si difficile que ça. C'est de la spéculation, mais reste que c'est une réflexion intéressante. Est-ce qu'un jeune peut traverser ça sans s'enfler la tête? Guillaume, ben, apparemment, ça y serait arrivé. Puis garde,
C'est sûr que ça doit être très, très difficile de gérer ça correctement parce que tu deviens tellement une méga star. Mais il y a des athlètes qui réussissent ou en tout cas qui donnent l'impression de vouloir réussir. Bianca Andreescu, par exemple. En tout cas, jusqu'à maintenant, on verra qu'est-ce qu'elle fera l'an prochain. Ben. Mais dans le moment, ça a l'air d'être bien parti. Ça a été plus difficile pour Eugénie Bouchard, par contre. Alors, mais là, on parle de sport individuel. Au football, t'as des quarts arrière vedettes qui arrivent dans la Ligue nationale de football dans d'immenses marchés. Je pense à un gars comme Sam Darnold qui arrive avec les Jets de New York, la presse new-yorkaise qui est là, ou encore avec les Giants de New York, un jeune quart arrière, Daniel Jones qui arrive là, puis qui est tous les projecteurs. Hey, le quart arrière au football, il y a personne de plus important que lui. Puis tous les regards des médias new-yorkais, là, c'est énorme, sont braqués sur eux. Puis ben, ils réussissent à se débrouiller, mais il y a une différence au football, c'est qu'ils sont plus vieux. Ils arrivent là après 4 ans d'université, ils ont 22, ils ont 23 ans, ils ont vécu un petit peu plus d'expérience, puis ils ont vécu des championnats universitaires qui, ça, t'sais, là, qui sont couverts autant que le sport professionnel. Alors ils sont probablement mieux préparés qu'un joueur de hockey comme Alexis Lafrenière. Là, quand tu joues pour USC au football, puis que tu es une vedette, je pense pas que c'est comme jouer pour le Annick de Rimouski. Là, Sports Illustrated n'est pas là à tous les matchs. Là.
Les gars, on joue-tu le jeu? Est-ce qu'on tente de bâtir une offre, voir si, admettons qu'on joue le jeu, qu'on est nous autres des dirigeants du Canadien, on se bâtit un scénario? Commençons par des choix de repêchage. C'est sûr qu'on donne le 2020, hein? On n'a pas le choix. Combien de choix qu'on inclut là-dedans? Donne-tu 2021-2022?
Ben, je pense que le plus simple, en fait, pour le Canadien, serait d'aller chercher le deuxième choix au total, en partant. Parce que il y a quand même deux joueurs. Il y a Lafrenière et il y a Byfield.
Un train qui en prépare un autre,
Oui, c'est ça, exactement. Je pense que dans un premier temps, le Canadien, plutôt que d'aller directement sur le premier choix, il est peut-être mieux de viser le deuxième, puis après ça, de faire une inversion du deuxième et premier choix. Parce qu'il y a pas, il y a un écart entre Lafrenière et Byfield, mais il est moins grand qu'entre le deuxième et le troisième rang. Attendons-nous. On peut commencer par viser le deuxième choix, c'est sûr. Ben, 2020, 2021, 2022, là, des choix de deuxième
ronde. Moi, je pense, juste pour les choix de première, je pense que ça peut pas être moins que la compensation maximale pour une offre pour une offre hostile avec un joueur autonome qui est dans la tranche du haut pour le salaire.
C'est 4
choix de première ronde. Moi, je pense que ça peut pas être en bas de ça. Si c'était vu que c'est déjà là dans la convention collective, c'est comme un standard, à mon avis. Alors, moi, je dis 4 choix de première ronde.
OK, intéressant.
Mais ça, c'est si Canadien, mettons, repêche en 10 et 20, évidemment, s'il y a le deuxième pick overall.
Mais
c'est ça. Donc, mettons, 4 choix de première ronde, c'est réaliste. Je pense qu'aussi, l'autre équipe, visiblement, voudrait des choix de deuxième ronde de cette année, parce que le Canadien en a beaucoup. Là. Il serait fou de s'en passer, honnêtement. Là.
OK, mettons qu'on a réglé ça pour les choix de repêchage. Là, pour ceux qui sont peut-être arrivés au milieu du podcast, là, on est en train on jase, on a du fun avec ça, on se bâtit une offre potentielle pour peut-être aller chercher le premier choix, avoir une chance de repêcher Alexis Lafrenière. OK,
on n'a pas appelé Jeff Molson encore pour lui demander ce qu'il en pensait. Ça, on fait ça après.
Et à la fin de notre offre, on va se redemander si on est vraiment prêt à donner ça. Je pense que c'est ça. OK, là, on a 4 choix de première ronde. Ouais. Probablement qu'il y a une couple de deuxième qui vont flatter là-dedans, là, d'après moi. Ça, c'est dans le jeu de la dernière négo. Mais là, il faut donner des joueurs, les gars. Fait que là, l'autre club, il nous demande notre meilleur jeune, probablement.
C'est sûr. C'est sûr. Et Nick Suzuki, il est dans la transaction. C'est dans le moment, c'est clair, c'est le meilleur.
Si on regarde ce genre de transaction-là.
Hey, je trouve que Kotkaniemi est vraiment supérieur.
Attendons. C'est une année difficile. On verra ce que Suzuki fera sa deuxième année. On le sait, des fois, la deuxième année, pour un joueur, c'est plus difficile.
Mais là, je suis plus ou moins sérieux par rapport à la réalité actuelle.
Souvent, enfin, une équipe dans cette situation-là va demander au moins un attaquant, un défenseur, un gardien. Ne serait-ce que pour reconstruire rapidement aussi sa franchise. Là. Ça pourrait être Suzuki, ça pourrait aussi être Caulfield. Il y a quand même beaucoup d'intérêt pour Cole Caulfield, mais ça pourrait être un des deux, honnêtement.
C'est vrai.
Ben, à la défense, c'est Romanov. Là. Clairement, je vois pas un autre joueur du Canadien sortir que Romanov. Ça. Puis dans les buts, c'est quand même intéressant. Price ou Primo?
Ou Primo?
Moi, je sais pas, Alex, parce que là, la transaction, comme elle est structurée à l'heure actuelle, il y a aucun joueur de la Ligue nationale, là, à part Price ou Primo éventuellement. Mais là, t'aurais tes choix repêchage. On sait si c'est un risque. Peut-être qu'ils vont être bons, peut-être qu'ils seront pas bons. Là, après ça, tu mets Romanov, qui a jamais joué un match dans la Ligue nationale, puis Caulfield, qui a jamais joué un match dans la Ligue nationale. Alors là, moi, je trouve que si je suis le directeur général de l'autre équipe, je vais être capable de dire à mes partisans, je vais sécuriser mon avenir avec 4 choix de première ronde. Un bon jeune, mais ça me prend des joueurs qui ont déjà prouvé qu'ils vont être dans la Ligue nationale. Ça prend quelqu'un pour amener à la conférence de presse.
Un des 7,
là,
c'est Suzuki, parce que si on regarde les autres joueurs, le premier trio du Canadien au complet l'année prochaine, ils sont tous joueurs autonomes. je vois pas l'autre équipe faire. T'sais, on va aller se pitcher sur Gallagher, puis tu le perds à la fin de l'année. Petrie devient aussi joueur autonome. Il reste qui? Mettons, dans le top 6, il reste Weber. Donc, le contrat, honnêtement, n'est pas très alléchant pour notre équipe. Puis, Domi, ça peut être une option aussi. Ouais.
Ouais. Mais Drouin, pense pas. Ben, parce que t'aimerais ça peut-être faire surprenant. Une combinaison. Fait qu'il reste Domi, disons, dans tes joueurs actuels intéressants. Ben, parce que moi, j'essaie de garder le plus d'espoir possible pour accompagner Lafrenière.
Ben, Lafrenière, c'est un allié aussi. Ça va prendre un joueur de centre pour jouer avec lui. Très, très talentueux, là.
Caulfield, je pense que ça va être une vedette vraiment dans la Ligue nationale. Honnêtement, là, c'est difficile de faire des projections.
Tu penses?
Je suis convaincu qu'il va être un joueur. J'ai même envie de penser qu'il va devenir la coqueluche des amateurs de hockey d'ici...
S'il score des buts, il va devenir la coqueluche, c'est sûr.
Quand il va arriver à Montréal, c'est sûr qu'il va être la coqueluche.
Mais moi, je demande à être convaincu encore.
Souvenez-vous de comment qu'on a, tu sais, comme des Mats Naslund, qui n'étaient pas exactement le même profil, mais tu sais, un petit joueur qui est exceptionnel, là, c'est attachant, il y a de quoi de spécial, c'est dynamique.
Hey, on aime même Oleg Petrov.
Je pense que Suzuki va peut-être être le joueur instrumental, mais Caulfield, je pense, va devenir la sensation, mais on verra.
Puis en plus, il y a une personnalité le fun, là. J'ai vu les reportages qu'on a publiés dans la presse sur lui, là. C'est vraiment un petit gars qui a l'air.
Mais ça revient, on peut dire 4 choix de première ronde. Mais ça peut être Suzuki aussi plutôt Caulfield, mais 4 choix de première ronde, Suzuki, un gardien, un défenseur. Là, ça commence à être une offre quand
moi,
même
je dis non, intéressante. Suzuki. Ben, moi, je dis, je suis pas prêt à laisser aller Suzuki.
Alors, tu laisses aller Caulfield?
Non plus.
L'autre équipe va vouloir l'avoir.
Faut que ça fasse mal, on l'a dit tantôt.
Kotkaniemi, ça me fait mal, les gars.
Non, mais Kotkaniemi, ça va l'air rien de baisser.
Contre un shot de première ronde puis Jordan Wheel, peut-être que je dis l'eau.
Et les gars, je fais bien des blagues avec Kotkaniemi, mais ça se peut que Kotkaniemi ait une meilleure carrière qu'Alexis Lafrenière. Là.
C'est encore possible que Kotkaniemi ait une meilleure carrière que Suzuki. On ne le sait pas. C'est prématuré. Là. Moi, là, Kotkaniemi, avant de dire, là, regarde, c'est un échec, puis c'est fini. Attendons.
Non, mais
c'est ce que tu disais tantôt. Là, peut-être que l'entraînement cet été n'a pas été optimal, puis là, il a été blessé un peu, puis là, il a été pris par surprise un peu, il pensait que ça serait facile, ça ne l'a pas été. T'sais, laissons-lui un an pour retrouver. Il y en a des joueurs que ça prend plus de temps.
Il est très jeune, il a 19 ans.
Puis il est grand, il a un bon physique, il a
c'est
des mains.
C'est pas le temps de démissionner. Faut suivre avec ton choix. Il est trop récent.
Ceci dit, il est souvent blessé, puis je pense que sa valeur présentement est faible. Vous voulez pour l'échanger. Tu veux pas les changer au moment où il est le plus faible.
Là. C'est un méchant, pensez-y bien, là. C'est sûr que c'est intéressant. Tu disais, c'est une méga star potentielle. C'est un gars du Québec. C'est le Mario Lemieux, peut-être, sans mettre la barre trop haut, mais de la génération actuelle. De le voir dans l'uniforme du Canadien, c'est rare qu'une opportunité comme celle-là passe, mais il peut arriver que tu te trompes aussi, parce qu'on sait pas exactement quelle carrière il va avoir, là.
Ben, il y en a eu, là. Neil Yakupov, Brian Lawton, Doug Wickenheiser. Dans tous les sports, il y en a eu des premiers shows.
Hey, je me souviens, là, à l'époque, là, de Neil Yakupov, là, le thème, c'était Fail for Neil. Échouons pour aller repêcher Neil. Ben, Edmonton a échoué, a gagné le derby Neil Yakupov et on connaît la suite, là. Il n'a jamais été capable de faire sa place dans la Ligue nationale. Alors, il y a un risque, mais à cela, je dirais ceci. Un directeur général de la Ligue nationale y est payé pour prendre un certain nombre de risques calculés, bien sûr. Puis tout à coup, faut peut-être qu'il y aille avec un gros coup. Puis c'est sûr que ça passe ou ça casse. Il y a un élément de risque, mais c'est ça le sport aussi.
Sauf que l'élément de risque est quand même mitigé. Je pense que c'est un très bon joueur puis il est très groundé, là. Mais au-delà de ça, c'est un bon cas, les Oilers, parce que bon, Yakupov, ça n'a pas fonctionné. Fait que les Oilers, qu'est-ce qui est arrivé? Ils sont restés dans le fond de la cave. C'est aussi ce qui leur a permis de repêcher encore au premier rang puis de prendre McDavid quelques années plus tard.
Oui, tout à fait.
Et une projection que tu es obligé de faire si tu participes à l'exercice vraiment, si tu dis, on dit souvent que, je sais pas si vous êtes d'accord avec ça, les gars, que l'équipe qui gagne une transaction, c'est celle qui met la main sur le meilleur joueur.
Ouais.
Qui sera le meilleur joueur de hockey dans 5-6 ans entre tous les noms qu'on brasse dans le boulier, là, Lafrenière, c'est un bar, mais ceux qu'on se ferait demander par l'adversaire, Suzuki, Kotkaniemi, Romanov.
Ben, c'est difficile à dire. Puis je retourne à l'échange d'Éric Lindros à l'époque. Là. Ça fait longtemps que je suis conscient de ça, mais c'est quand même un exemple de méga transaction.
C'est un exemple incroyable.
Alors, Lindros est devenu un très bon joueur de hockey. Certains diront un excellent joueur de hockey. Évidemment, il y a eu toutes ces commotions cérébrales qui ont fait très mal, qui ont ralenti sa carrière. Il en reste pas moins qui a été admis au temple de la renommée du hockey. Mais dans cette transaction-là, oui, il y avait les 15 millions de dollars que les Flyers ont versés aux Nordiques à l'époque, mais il y avait également un jeune espoir qui s'appelait Petter Forsberg. Ah oui. Et Forsberg est devenu une méga vedette. D'abord à Québec, ensuite au Colorado, a gagné des Coupes Stanley et tout. Alors, qui a été le meilleur joueur de cette transaction-là? C'est peut-être pas celui qu'on est allé chercher. C'est c'est peut-être celui qu'on a donné dans un package de joueurs. Ouais. Alors oui, il y a un méchant.
Mais c'est difficile à trancher parce que Lindros a quand même eu tout un impact.
On parle là, on met des espoirs, mais juste si on regarde quatre choix de première ronde, qu'est-ce que ça donnerait si par exemple ça avait été les quatre derniers premiers choix du Canadien? Ça voudrait quand même dire Caulfield, Kotkaniemi, Peeling et Sergachev.
Ouais,
c'est beaucoup là quand même. Quand on y pense, là,
ouais,
plus
tu mets des noms
plus,
dessus, puis du
plus on parle
là.
De Suzuki, plus on parle de Primo, ça fait quand même.
Oui, ok, je veux dire
c'est une grosse offre quand même.
C'est
là,
une grosse offre, mais dire. Recule. Je sais pas si t'es.
Oui, non, oui, j'ai dit non.
Recule les
okay.
quatre choix précédents.
Ouais, y a des années, ça donné moins mal que d'autres.
Alors, ça serait Noah Yolson, Nikita Sherbak, Michael McCarron et Alex Galchenyuk.
Est-ce que tu le ferais
demain matin?
Alors, tu sais, ça a été des très mauvaises années. Alors, tu sais jamais avec un choix repêchage.
Ça sera campé sur remonter les autres avant?
Oui. Ah,
Nathan Beaulieu, 15, Jared Thénardy, Louis Leblanc et Danny Christo.
Bon, voilà.
Non, ça a été la catastrophe pendant plus d'une décennie. Là.
Alors, tu sais, là, ça va bien pour les choix repêchage du Canadien. Ça c'est une bonne moyenne dans les dernières années, mais si on regarde sur... Et c'est la même
Suzuki,
personne.
Suzuki, ils l'ont
là.
Pas repêché. Non, hein. Non. Ils l'ont eu via transaction.
Exactement.
Mais Caulfield, je pense ça va être un
ils
bon choix.
Ils l'ont eu dans une transaction, ceci dit, contre un joueur qui, présentement, est à peu près dans le top 10 des marqueurs de la Ligue aussi.
Oui,
là.
Oui,
c'est
oui.
C'est quand même une bonne valeur.
En retour d'un gars qui est notre meilleur pointeur, oui. Thomas Tatar et Suzuki. Mais si je vous donnais...
Juste, tu permets 30 secondes. L'échange de Lindros. Là. J'ai les noms de tous les joueurs que les Flyers avaient cédés à l'époque. Chris Simon, qui a quand même joué dans la Ligue nationale, puis c'est à l'époque des durs, puis il en fallait. Mike Ritchie, qui a été excellent,
très, très bon,
un
ouais.
agitateur sur la patinoire et tout. Kerry Hoffman, qui n'a pas été un grand joueur, mais il, à la ligne bleue, il était capable de jouer. Ron Extall, qui a eu du succès. Steve Duchesne et Forsberg.
Et plus les choix repêchage, dont un, je pense, est devenu Jocelyn Thibault avec le temps.
Oui, possible, parce que c'est le choix de première ronde en 1994.
Donc Richie et Forsberg ont gagné la coupe avec Colorado, eux autres.
Oui.
Hein? Ça veut dire que mémoire, de cet échange-là, là, je ne sais pas s'il y en a un autre dans les
puis Extall s'est rendu en finale. Puis, alors, c'est ça prend, il faut que l'offre soit colossale.
Je veux poursuivre la réflexion pour être bien sûr de savoir, on continue de jouer le jeu, ce qu'on donne. Là. Puis, mettons que je te donne un bouclier, là, je sais pas si ça existe dans le jeu, là, mais tu mets un bouclier que lui, tu peux pas y toucher. Là. Je pense que à la lumière de ce que je vois là, entre Caulfield et Suzuki, tu posais la question, j'aurais de la misère. J'aurais vraiment de la misère. Tu sais, c'est sûr que je pourrais pas protéger les deux, là, mais de la manière que je vois Suzuki se développer à l'an 1, moi, je pense, puis je me rappelle de la comparaison d'André Tourigny, qui l'avait comparé à Ryan O'Reilly. On sait qu'est-ce qui est devenu Ryan O'Reilly dans la Ligue nationale. Ouais. C'est tough,
à l'heure actuelle, pour
je
moi...
Je pense pas que je voudrais le laisser aller, Suzuki.
Non, moi non plus. Pour moi, ça serait simple à l'heure actuelle. Je trouve que...
Ça serait aller Caulfield?
Ah oui, sans l'ombre d'un doute. À l'heure actuelle, là, puis peut-être que dans 5 ans, on réalisera que, tu sais, Caulfield aura eu 3 saisons de 5 ou 30 buts ou 40 buts, peut-être. Mais à l'heure actuelle, je trouve que Caulfield, il y a encore un élément de risque avec lui. Il est pas très grand, on le sait tous. C'est une ligue où ça brasse beaucoup. Est-ce qu'il va se faire bardasser? Est-ce qu'il va pouvoir décocher ses lancers aussi rapidement, sans avertissement? On le sait pas.
Puis
on sait qu'en séries éliminatoires, les petits joueurs, là, ils ont de la misère. Johnny Gaudreau, excellent saison régulière, arrive en série, il se fait brasser, c'est plus difficile. Alors, ça pourrait potentiellement arriver à un Caulfield. Alors que Suzuki est capable de jouer au centre, il est en train de prouver qu'il est de calibre de la Ligue nationale, donc il y a une incertitude qui se lève, qui existe encore à propos de Caulfield. Alors, moi, j'irais avec la prudence à l'heure actuelle, si je devais faire ça. Mm-hmm. Puis je céderais Caulfield, puis je garderais Suzuki.
Oui, il n'y aura aucun intouchable chez le Canadien. Nick Suzuki, je l'aime beaucoup. Il est très bon. Des joueurs de son âge, il y en a quand même. Là, il y a des statistiques comparables avec Maxime Comtois, par exemple, ou Alexandre Texier là, chez les Blue Jackets, qui sont aussi des très bons joueurs. Mais il y en a des joueurs comme Suzuki dans la Ligue, des joueurs comme Lafrenière. S'il se développe au statut auquel on l'attend, il va en avoir entre 5 et 10 dans toute la Ligue. Moi, je n'aurais pas d'intouchable chez le Canadien.
Vous la feriez, les gars, s'il y avait un preneur, si la discussion là, est amorcée, puis l'autre bord dit « OK, 4 choix de première ronde ». Caulfield ou Suzuki, probablement là, d'autres joueurs là, qui viennent soutenir ça, probablement une flopée de deuxième choix également, mais c'est quelque chose où vous seriez tenté de foncer?
J'hésiterais pas une seule seconde, parce que c'est un joueur québécois, ça serait le plus grand joueur québécois à Montréal depuis fort, fort longtemps, depuis Patrick Roy, sans doute. Il transformerait un peu l'image du Canadien aussi. Puis je me disais, si le Canadien avait, depuis 1993, il se gagnait une ou deux fois la Coupe Stanley, puis qu'on savait que l'équipe était capable de, tu sais, de rapidement se rebâtir après une période difficile, je dirais, ben, tu sais, attendons, là, on n'a peut-être pas besoin d'un gars comme lui, puis on est capable de faire en sorte que l'équipe soit bonne année après année de façon générale. Mais là, c'est pas le cas, là. Les Canadiens n'ont pas fait les séries des éliminatoires 3 fois en 4 ans, malgré les succès, là, actuels. Moi, je pense que ça va être encore très difficile cette année. Est-ce que c'est vraiment l'équipe qui va menacer pour la Coupe Stanley dans 3 ans, dans 4 ans? Je suis loin d'être convaincu de ça. Puis t'as pas gagné depuis 1993, là. C'est jamais arrivé depuis 93. T'as peut-être une chance d'avoir un joueur qui va te transformer. Moi, j'irai.
Ah, ça serait difficile.
C'est dur, hein?
Ben moi, je l'adore
c'est
comme
là qu'on
joueur.
C'est quoi le faire pour vrai, hein?
Tu sais, à la fois, ce qui est le fun d'Alexis Lafrenière, c'est à la fois, il y a un talent élite de marqueur, mais c'est aussi en même temps un attaquant de puissance. C'est rare, là, les joueurs qui ont les deux ensemble, là, peut-être Dreisaitl, tu sais, mais il y en a pas beaucoup dans la Ligue nationale. J'aimerais vraiment ça le voir à Montréal. Maintenant, le problème qu'on a à Montréal, c'est que oui, on parle des espoirs qui sont très, très bons, mais si on regarde ce qu'on donnerait, mettons, pour Lafrenière, il reste vraiment plus grand monde pour l'entourer. Mm-hmm. Vraiment, plus vraiment. Puis le Canadien se retrouve dans une position où, en fait, il faudrait qu'il cherche des joueurs autonomes là, pour l'entourer. Ça serait ça l'enjeu. Sachant que dès l'année prochaine, toute ta première ligne s'en va, plus Petrie, ça serait difficile. L'autre chose, c'est est-ce que...
Ouais, ça n'ira peut-être pas tous, là, la première ligne. Là. Ça se peut qu'ils signent à Montréal, là, Gallagher. Ça se peut qu'ils restent. Puis,
oui, non, mais moi, je pense qu'ils ne garderont pas les trois. Là. Ça me semble improbable.
Moi, je pense qu'ils vont essayer de garder Dano puis Gallagher.
Oui, c'est aussi ce que je pense.
C'est ça qu'il faut qu'ils gardent.
Mais ça serait difficile de garder Petrie en plus. T'sais, parce que là, t'en aurais des contrats à 7-8 millions dans une équipe. Là.
Ça fait pas mal de monde, mais j'avoue que difficile. C'est une réflexion difficile. Ouais, ouais. Et je vous ai beaucoup écouté pour entendre les arguments qui pourraient être soulevés là-dedans. Puis je suis un peu à cheval sur la clôture.
Là, tu vas rendre ton jugement?
Non, mais je suis pas le juge, mais je veux dire, c'est un peu de me contredire que de dire non compte tenu de l'importance qu'aurait un Alexis Lafrenière dans l'histoire du Canadien, puis dans ce qu'il pourrait amener puis incarner, de ce que j'ai toujours dit depuis que je fais de la radio sportive. J'ai comme, mais quand je considère un peu pour pencher du côté d'Alexandre, la facture qui vient avec, ouais. Moi, je te dis pas que j'ai la conviction que le groupe actuellement qu'on a sous les yeux s'en va vers une Coupe Stanley, mais je pense qu'on a quelque chose dans les mains qu'on apprécie peut-être pas sa juste valeur, qui reste à être bonifié. Et je sais pas, compte tenu qu'on vient de vivre, on vient de manquer 3 années de série en 4 années.
3 fois en 4 ans.
Je me demande jusqu'à quel point le prix de cette transaction-là, même si elle est pleine d'espoir, nous amènera pas à en manquer 3-4 autres. Alors que là, j'ai l'impression qu'on est peut-être à 1 an, peut-être cette année, peut-être 1 an ou 2 de revenir, puis revenir pour un bout. Je vais vous dire, les gars, là, j'aurais de la misère à prendre bien humblement, mais faut se mouiller, hein.
Ben, d'un point de vue égoïste, okay, sérieusement, tout le monde voudrait Alexis Lafrenière dans son équipe. Là,
ok, je vais essayer un dernier argument pour te convaincre.
Ouais.
Ok, je vais essayer un dernier argument.
Oui, donc.
Les joueurs d'appoint, c'est très important. Puis c'est très important d'avoir de la profondeur. Puis j'en suis. Mais un joueur qui va transformer ton équipe et ton organisation, un Mario Lemieux, un Connor McDavid, ça c'est tellement rare, c'est tellement
souvent,
rare. Puis tu finis par gagner avec ces gars-là. Moi, je suis convaincu, Mario Lemieux, il en a gagné des Coupes Stanley, puis je suis convaincu que McDavid va finir par en gagner
ben, ils
une.
Vont très bien, les Oilers, ben, présentement.
Alors, tu sais, c'est des joueurs qui transforment, puis qui, en plus, qui donnent tellement d'intérêt envers l'équipe. Tu veux les voir jouer, tu veux écouter le match, tu veux voir qu'est-ce qu'ils vont faire à chaque soir. C'est extraordinaire.
Mais, Philippe, il y a une constance dans ces grandes équipes-là. Tu sais, Lemieux avait Jagr. Crosby a Malkin, McDavid a Dreisaitl, Taves a Kane ou Kane a Taves, on peut y aller d'un bord ou de l'autre. Kopitar, Doughty, le Canadien, OK, on va chercher Lafrenière.
Suzuki, Lafrenière, Kotkaniemi, Lafrenière.
Non, on peut pas mettre Suzuki dans la même conversation, à mon avis, que Malkin ou que Jagr.
Non, on verra.
Ben, pourquoi pas?
Je veux dire, moi, je dirais pas.
Non, mais je veux dire... Par rapport à la génération actuelle, on ne sait pas ce que Suzuki va devenir. Il va peut-être devenir un des meilleurs joueurs de la Ligue nationale, non?
Je pense que oui. Je pense que oui.
Duo de choc, je pense.
Qui aurait pensé que Brendan Gallagher, choix de 5e ronde, deviendrait Brendan Gallagher?
Ben, justement, puis regarde le premier trio actuel du Canadien. Il fait quand même la job. C'est loin d'être un trio étiqueté star, là, mais c'est sûr qu'encore une fois, ça nous amène à nous projeter. Mais ce qui me ferait vaciller, là, ultimement, parce que avoue, Philippe, que Mario Lemieux, c'était comme évident.
Oui.
Est-ce qu'on peut dire autant d'Alexis Lafrenière qui pourrait être même repêché 2e? Ouais, tu sais, Mario Lemieux, c'est un des 3 meilleurs joueurs de l'histoire du hockey.
C'est autre chose, je te l'accorde.
Ah, il est pas dans la. Je veux dire, on va descendre les attentes ici là. C'est pas il sera pas Mario Lemieux.
Il va être meilleur que Lavalier, que le Cavalier. Va être meilleur que Pierre-Luc Dubois.
Si moi je devais faire la vie présentement, je pense que oui. Tu sais, je pense qu'il serait plus proche d'un Nathan MacKinnon. En termes de talent brut, là, c'est peut-être son upside et peut-être autour de ça. C'est pas Sidney Crosby non plus, à mon avis. Mais Nathan MacKinnon, c'est un très bon comparatif là, au niveau du talent qu'il pourrait aller chercher.
McDavid est là depuis plusieurs années. Ils ont fait des séries une fois.
Oui.
C'est quoi ton objectif? Ton objectif, pour moi, ce serait de gagner la Coupe Stanley une fois. Pas cinq fois, on sait que ça n'arrivera pas. Là. Un joueur dans sa carrière gagner cinq fois à Coupe Stanley, je pense qu'on ne verra pas ça très, très souvent à l'avenir. Là. Mais la gagner une fois. Moi, je pense que ce serait important que le Canadien gagne la Coupe Stanley une fois dans un avenir.
On est d'accord là-dessus.
Disons de 10 ans, un horizon.
Est-ce que c'est le meilleur moyen pour y parvenir?
Ah, ça, c'est toute la question.
Puis l'avenir le montrerait. Donc, Philippe, tu tranches oui. Alexandre, tu tranches oui ou tu es à cheval à sa clôture?
Est-ce que j'aimerais ça? Oui. Je suis vraiment pas sûr que je le ferais.
Sais-tu quoi? Traite-moi de chicken si tu veux, là. Puis d'être un traître à la nation. Mais je pense que moi aussi, je regarderais passer ça. À moins que je me garde une porte, OK? À moins que mes hommes d'hockey arrivent puis soient prêts à mettre leur tête sur le bio de dire boss, mettons qu'on joue le jeu. Ouais. Tu peux pas te tromper avec lui. Il va devenir ça. Faudrait vraiment là que mes gars qui l'ont scouté, épié, pis ça, qui me convainquent de ça. Et jusqu'à preuve du contraire, je resterai sa clôture.
Alors, mesdames et messieurs, c'est à moi que vous écrivez pour vous plaindre.
T'es cohérent quand même parce que, tu sais, le gros coup de circuit ou ouais,
l'audace. Puis, tu sais, au fond, là, je pense pas que ça va arriver parce que je pense pas que le Canadien va faire ça. Puis, je pense pas que l'autre équipe va laisser aller son premier choix, deuxième choix. Je pense qu'on a une conversation qui est super le fun, puis qui, tu sais, une conversation de gens qui aiment le hockey, puis on lance des idées, puis on s'amuse, puis c'est parfait. Je pense pas que ça va arriver, mais je te dirais que si je dis oui comme ça, là, c'est aussi parce que j'aimerais ça qu'il y ait encore plus d'audace chez le Canadien, qu'on fonce encore plus, parce que je suis tanné du discours ambiant, je suis tanné de c'est tellement dur à gérer la masse salariale, je suis tanné de c'est tellement dur faire une transaction, je suis tellement dur de les autres équipes ils donnent pas leurs bons joueurs, quand il y en a eu des échanges de bons joueurs, Ryan O'Reilly est échangé,
puis d'autres ont été échangés. Et la question sur laquelle j'ai envie de relancer la suite de la discussion, est-ce que d'être très patient, de garder tes choix de repêchage et d'attendre que le gâteau lève tranquillement, est-ce que dans le contexte montréalais, c'est faire preuve d'audace?
L'audace, Mario, pour moi, c'est essayer de... Tu sais l'expression en anglais, là, « to think outside the box », tu sais, autrement dit, d'essayer de brasser des idées. Au baseball, les Rays de Tampa Bay sont reconnus pour ça, tu sais. Les Astros de Houston aussi, mais pour les mauvaises raisons ces temps-ci. Alors, ce que j'aimerais voir, c'est ça, c'est qu'on pense de façon un peu différente, qu'on mette beaucoup de choses en question, puis peut-être qu'au bout du compte, on décidera que non, ça vaut pas la peine, puis de toute façon, si le Canadien se pose ces questions-là, on le saura jamais, là. Mais tu sais, des fois, il y a un certain nombre d'informations qui peuvent transpirer, mais moi, j'aimerais ça qu'on brasse la sauce un peu, parce que la recette actuelle, c'est que tout le monde se croise les doigts, on espère que les jeunes deviennent des super beaux jeunes, on n'est pas très sûr, on sent que ça va être long, on se dit on n'est pas pire que d'autres équipes, tu sais, peut-être ça va mieux aller, de l'espoir, mais tu sais, tout ça, c'est pas axé sur des très très solides. Là.
Ils ont quand même été audacieux quand ils ont échangé Piqué Souban, qui devait être l'image à la franchise, sont allés chercher Weber, puis tantôt je parlais de duo, les grandes équipes ont un duo pour gagner. Dans la tête du Canadien, le duo, c'est Weber et Price. Est-ce que c'est le meilleur duo de la Ligue nationale? Ben, Weber va très, très bien cette année. Puis là, Price, vraiment, est dans une très bonne séquence. Mais ça, c'est l'audace du Canadien, en fait, c'est de dire nous, on ne misera pas sur deux attaquants, alors que la plupart des équipes de la Ligue misent sur deux attaquants. Ça, c'est l'audace du Canadien. Ils font ça absolument différemment de tout le monde. Il n'y a aucune autre organisation que je pense vite, Panthers, peut-être,
vu qu'ils ont donné autant d'argent à Bobrovsky, tu peux penser
peut-être
mais
Panthers
quand même,
avec Ekblad, mettons, puis Bobrovsky, mais ils ont quand même eu Huberdeau puis Barkov en attaque, c'est quand même un pop-up club. Mais il n'y en a pas là, d'organisation qui met ça. Ils l'ont essayé, je pense pas que c'est la bonne stratégie. Bon, on peut pas leur reprocher de pas avoir essayé, mais maintenant, le problème qu'on a, c'est que les deux joueurs sont pas dans le bon côté là, de leur carrière.
Les finalistes de la Coupe l'an passé, c'est deux beaux modèles sur lesquels quelqu'un qui veut penser que le Canadien est peut-être sa bonne route.
Mais c'est une exception à la règle. scénario.
C'est pas une exception. T'es les deux finalistes, Alexandre. Les deux finalistes n'ont pas pêché premier. Ils ont pas pêché premier. Tu sais, overall, ils ont pas été dans le cave. Ils ont pas coulé pour remonter dans ce sens-là.
Ah oui, OK. Ils ont pas tanké, là. Ouais,
ben, ils ont pas tanké. Ils ont eu quelques petites saisons. Et les gars, même l'équipe qui a gagné la Coupe cette année l'an passé, on le sait que sur papier, c'était pas une équipe de fond de classement. Mais avouez, et j'ai envie de dire, avouons que Saint-Louis ressemblait à une équipe qui était sorti de sa fenêtre.
Ouais.
Je sais pas si t'es d'accord. Je sais pas si vous êtes d'accord.
Mais combien
on parle de la fenêtre. Donc, eux autres, ils avaient l'air sortis de la fenêtre. On se demandait, on va te chercher un vétéran Boomister, peu importe. Tu sais, puis finalement, écoute, ils l'ont gagné au moment où même, les gars, en pleine série l'an passé, le public à Saint-Louis, je pense, en deuxième ronde, huait les Blues. Ouais, parce qu'en plus, il y avait de la misère à gagner à domicile. Les jeunes n'y croyaient plus. Ça fait comment d'années depuis 77
qu'on discutait même à l'époque, est-ce qu'ils devraient garder Tarasenko? Est-ce qu'ils devraient l'échanger, aller chercher des gens?
Ils ont gagné.
Pour moi, c'est quand même l'exception à la règle, les Blues. Si on regarde le type d'équipe qui gagne depuis 25-30 ans, les Blues, c'est vraiment la bibitte à part de tout reste. Un peu comme quand Leicester a gagné la première ligue anglaise. T'sais, c'était comme la première fois qu'un des clubs secondaires gagnait depuis genre 50 ans ou je ne sais pas combien d'années. Pour moi,
En quoi ils sont l'exception, tu veux dire, Alexandre?
Ben justement, ils n'ont pas construit leur équipe autour de deux super attaquants. Ryan O'Reilly que j'adore, mais essentiellement, ils ont été chanceux l'année dernière, on va dire ça comme ça. Ils ont vraiment été chanceux.
Il n'y a pas
beaucoup d'équipes. T'sais, pour moi, ça arrive. C'est dans l'exception. Quand on fait 19 chances sur 20, là, c'est quoi? 19 fois sur 20, vous avez une chance de gagner dans un sondage. Ça, c'est le 1 sur 20 pour moi, les Blues. Mais je pense qu'il n'y a pas un directeur général présentement qui regarde les Blues et qui se dit « Je vais construire mon équipe comme ça dans la Ligue nationale. » Je pense qu'il n'y en a aucun. Là.
Ben écoute, je pourrais débattre longtemps du cas des Blues de Saint-Louis là, mais je vais dire OK d'abord pour régler le cas des Blues parce que c'est sûr qu'on peut aller dans toutes les directions, mais c'est une réflexion intéressante les gars parce que ça nous fait nous questionner à savoir si on veut-tu que ça se passe vite. Même si on n'est pas sûr que ça va arriver, ou on peut être continuer de privilégier une certaine prudence, mais d'être sûr que... Moi, j'ai l'impression que le Canadien, c'est pas flamboyant ce qu'ils ont, mais il y a une chose qu'on n'a peut-être pas toujours eue, et ça a été audacieux de partir de Pacioretty, de Subban et compagnie, mais ce qu'ils ont, c'est que j'appelle ça des traîneux de savate, il n'y a plus l'air d'en avoir. Il ne semble plus y avoir d'influence. Tu sais, je veux dire, quelqu'un qui entre dans ce vestiaire-là, là, je veux dire, il y a de quoi d'établi.
Moi, c'est de loin ce qui m'impressionne le plus chez le Canadien cette année. Et je te rejoins complètement là-dessus parce que je trouve, dans le vestiaire, tu sais, on n'est pas là quand ça se passe vraiment.
Non.
Mais on voit sur la glace comment ça se passe. Mm-hmm. Puis, tu sais, je regarde les matchs récents. Oublions le match contre, c'était contre Détroit, là, récemment.
Ouais, les matchs qui ont perdu à domicile, deuxième fois cette année.
Mais tu sais, le début de ce voyage, là, dans l'Ouest canadien. Tu sais, t'as vu une équipe qui travaille, à mon avis, là, plus fort que ses adversaires. Commence pas tout le temps de la bonne façon. On a même vu Claude Julien, semble-t-il, s'est choqué périodes à Calgary. Mais il travaille. Il travaille. Et tu le sens, quand tu regardes le match, tu vois qui est le premier sur la rondelle dans le coin de la patinoire, qui se bat tout le temps. Puis à ça, ça fait qu'ils méritent leur victoire. Et ça rejoint, ça ne se passerait pas ici sur la patinoire si ça se passait pas comme tu viens de le décrire dans le vestiaire.
Et donc, je trouve que c'est un cadre intéressant prometteur, tu sais, pas à l'extrême, je deviens pas un agitateur de pompons, mais reste que je me dis, on s'en va peut-être quelque chose. Fait que, mais ça nous fait réaliser aussi, parce qu'on discutait avant d'entrer dans le balado, les gars, la dernière Coupe Stanley remportée au Canada, ça remonte à 1993. Il y a des moments lourds à couvrir pour nous, les journalistes. Pour les amateurs, c'est difficile d'être tout le temps fan de leur équipe dans la courbe de performance de toutes ces années-là. Ici à Montréal, comme dans toutes les équipes canadiennes. Mais j'avais envie de vous demander une question peut-être bien simpliste, mais malgré le fait que le Canadien n'ait rien gagné, ne soit pas passé trop près bien souvent, quelques finales de conférence, est-ce que le hockey génère encore du plaisir? On a-tu encore du fun autour du Canadien, même si souvent c'est frustrant, puis on a envie de les passer à la moulinette, puis de taper sa piñata, puis tout ça, mais est-ce qu'on y trouve notre compte pareil dans une industrie où, maintenant, avec la multiplication des équipes, les quatre Coupes Stanley en ligne, les gars, c'est une époque. En tout cas, si ça survient dans un autre sport un jour, je sais pas comment, peut-être dans un sport où il n'y a pas de parité salariale, mais la réalité, c'est quand tu gagnes une fois aux 30 ans, dans une ligue à 32 clubs, bravo, là.
Ben, en fait, techniquement, d'ici ma mort, je vais voir le Canadien gagner une coupe. Mathématiquement, là, c'est 1 sur 30. En vrai, j'ai 42. Là,
t'as quel âge? Ça veut dire que j'ai peut-être ça. Pas... Ça se peut ben, que je sois pas là, mais que ça arrive.
Non, mais en fait, c'est là qu'il y a...
Vous êtes un peu déprimant, là.
Mais c'est là qu'il y a un clivage, en fait, de génération. J'ai deux adolescents à la maison et eux, leurs attentes, là, c'est pas que le Canadien gagne la coupe cette année. Ils sont tout à fait réalistes. Eux, ils ont compris que c'est une chance sur 30. OK? Ça a été conditionné. Le Canadien a quand même fait beaucoup passer ce message-là depuis 10 ans, c'est rentré dans leur crâne. Puis je pense que c'est comme ça pour pas mal toute cette génération-là. En fait, là où c'est très différent, je vais prendre, par exemple, ben, tiens, la génération de Philippe. Vous avez quand même eu beaucoup de grands moments de commotion collective. Il y a eu l'Expo 67, mais t'étais jeune un peu, mais l'Expo 67, les Jeux olympiques, la série du siècle, les Coupes cette année du Canadien, ouais. L'homme sur la lune.
La Coupe AFCO à Québec.
Oui, ça tout compte. À fait, je suis d'accord. Si je prends ma génération, il y a quand même eu beaucoup aussi de moments collectifs. La Coupe de 86, la Coupe de 93, les Expos en 94, Gilles Villeneuve, les référendums, la petite vie. Il y a eu beaucoup d'événements comme ça. Je regarde la génération de mes enfants et ce sont tous des événements négatifs, là, où ce à quoi ils sont associés, c'est des attentats, mais des moments de joie collective, il y en a très peu. Puis ça, je leur souhaite. Je trouve ça très triste, en fait, que cette génération-là n'a pas... Elle a traversé son adolescence sans avoir aucun événement très rassembleur puis très positif, autre que des manifestations. Je leur souhaite. Puis ce que je trouve plate présentement, c'est qu'on dit le Canadien va être bon entre 3 puis 8 ans. OK, on va faire ça au pire dans 8 ans. Écoute, il va avoir comme 25 ans, puis le sport, en tout cas à Montréal, leur aura probablement pas donné de grands... Maman, peut-être qu'OG Aliassime va en donner dans les prochaines années, mais il n'y en aura pas eu tant que ça.
Ouais, c'est tellement vrai ce que tu dis, parce que moi, je me souviens avec mon garçon, tu lui aurais demandé il y a quelques années là, quel est le plus grand moment de sport qu'il a vécu, puis il était très jeune à ce moment-là, là, puis il y a eu de l'émotion, là, je me souviens, c'est un match de saison régulière de l'Impact où Marco Di Vaio avait marqué 2-3 buts pour combler un retard, puis ça avait été, c'est vrai, j'étais là avec lui, ça avait été une soirée extraordinaire, c'est un match extraordinaire. C'est très bien, mais on est loin d'une Coupe Stanley avec 500 000 personnes ou 1 million de personnes dans la rue. Absolument. Pour applaudir les champions. Maintenant, moi, il y a une chose que je veux juste rajouter là-dessus, par exemple, c'est que c'est vrai, t'as raison, on n'a plus ces moments-là, mais avant, j'ai l'impression que, tu sais, cette espèce de notion qu'on est content, le Québec qui gagne, tu sais, que le Québec qui gagne, tu sais, avant, là, dans les années 70, ça passait par le Canadien. Mais aujourd'hui, notre scène sportive, notre scène culturelle...
On est moins complexé un peu,
ben, peut-être. Ouais, on s'est tellement... On s'est tellement illustré sur la scène internationale. Dans les années 70, on n'avait pas de champion skieur acrobatique, tu sais, dans...
En fait, avant Jacques Villeneuve, il y en avait presque pas. Il y avait Gaétan Boucher, puis c'est à peu près tout.
Alors, tu sais, on a maintenant d'autres personne que le club de hockey qui nous fait qui nous font gagner, entre guillemets, fait, qui, en tout cas, qui porte l'étendard du Québec à l'avant-plan. Alors ça, au moins, c'est consolant.
Mais c'est très révélateur parce qu'à la presse, on a fait le meilleur athlète, un jeu là, avec 16 candidats pour trouver le meilleur athlète québécois de la décennie. Il n'y avait aucun joueur du Canadien dans les 16. Puis même, il y avait 3 hockeyeurs en comprenant Marie-Philippe Poulin. Tous ceux qui sont passés dans les premières rondes, c'était presque, sauf Marie-Philippe Poulin, c'était presque tous des athlètes amateurs.
Il faut se les fabriquer parfois, les moments, parce que quand je repense à tous les moments qu'on a vécu depuis 93, c'est sûr que quand dans les années qui ont suivi la dernière conquête, on n'avait aucune idée qu'on allait vivre ça, là, parce que tu sais, on n'avait pas été habitué à ça. C'est sûr que c'était plus 4 coupes en ligne, 86, 93, 79.
Il y a eu la finale de 89, il y a eu la finale de 87.
On y retournait, tu sais, c'était quand même...
L'équipe était là, là.
On pouvait pas s'imaginer que... Et dans le fond, quand je repense aux grands moments qui nous ont émus, qui nous ont rassemblés, c'est même pas nécessairement un match ou un résultat. Je pense à la fermeture du Forum. Je pense à l'ouverture du Centre Molson à l'époque, avant qu'il devienne le Centre Bell. On s'est fait des grandes messes pour célébrer les célébrations du centenaire. Donc, on a célébré notre passé beaucoup, beaucoup, à défaut d'avoir un présent qui était toujours enivrant. Ça fonctionne jusqu'à un certain point parce que c'était vraiment des cérémonies exceptionnelles. Mais au plan sportif aussi, même sans gagner la Coupe Stanley, je veux dire, je me rappelle de moments, tu sais, on a souvent des moments père-fils, peu importe, mais l'année, évidemment, du 11 septembre 2001, l'année du cancer de Sakou Koivu, de son retour, les deux petits trônes éliminatoires, le fait que le Canadien fait les séries, comme moment de sport, ça a été fort. Regarde les applaudissements quand la binette à Sakou Koivu apparaît sur l'écran. J'oserais affirmer que le plus grand moment de sport lié aux Canadiens depuis la Coupe de 93, c'est ça.
C'est un c'est éminemment défendable. Puis je te dirais que sur la glace, tu sais, quand on regarde le sport pour le sport, moi je parle beaucoup à des jeunes qui vont me dire que le nom qui revient tout le temps, c'est Alak.
Ouais, c'est Alak, le match d'Alak de Washington.
Les deux séries,
que j'ai
là, Washington,
le printemps
Alak,
c'était phénoménal.
C'était phénoménal. Puis ça, ça a marqué l'imagination. Plus, je pense, que la demi-finale de
contre les Rangers. Quand Carey Price a été blessé par Kreider,
parce que, bon,
ça a dégonflé. Premier match de finale de conférence.
Mais Price, là, le Canadien était, je pense, huitième. Il est rentré huitième, puis ils ont battu les Pingouins qui étaient numéro un.
En sept matchs, puis Washington en sept matchs, et deux fois sur la route.
Moi, j'étais au match, le fameux match où Alak a fait en haut de 50 arrêts au Centre Bell. Moi, c'est de loin le plus beau match, à part la finale du championnat du monde au Centre Bell. C'est le plus beau match que j'ai vu là, de hockey. Là.
Merci de nous le rappeler d'ailleurs, parce qu'à rebrasser ça dans ma tête, c'est vrai que c'était difficile à battre, parce que là, en matière de compétition, c'est probablement que ça accote même. Ouais. Peut-être que ça bat. C'est différent. Il y a une autre dimension dans le cas de Koivu. Koivu, c'est l'espoir, la maladie, tout ça. Puis on fait les séries.
Autre,
mais Alak, c'était quelque chose.
C'était
les quelque gars, chose. À chaque arrêt, on n'en revenait pas. Pour vrai, c'était comme un shoot. C'était règlement de compte à hockey choral. Les tirs, un attendait pas l'autre.
Ouais. Puis, tu sais, moi, j'ai écrit un livre qui s'appelle 50 matchs de hockey qui ont marqué le Québec. Puis, j'ai réalisé après l'avoir écrit, parce que c'était le fun et tout, puis des matchs, mais j'allais beaucoup dans le passé, puis c'est dans le passé les grands succès des Canadiens. Et j'ai compris que j'ai moins touché la jeune génération. Puis, il y a des plus jeunes qui m'ont parlé de deux matchs d'Alak, un des matchs d'Alak, en tout cas, cette série-là, là, j'aurais pu en prendre un. Mais aussi, un match qui a frappé les imagination. Beaucoup, beaucoup. C'est incroyable comment j'en ai entendu parler. Tellement de gens m'ont demandé « En as-tu parlé? » quand... Non, puis là, j'ai regretté. C'est la fameuse remontée contre les Rangers 5, de New York.
Un match de saison régulière,
mais ça a marqué. Le Canadien perd 5-0, gagne 6-5. Ça a marqué les esprits.
Mais donc, ça veut dire, les gars, qu'on peut être dans un marché où notre équipe ne gagne pas, passe pas proche bien, bien souvent, puis quand même éprouvant encore ce plaisir-là, même si on a des épisodes de colère, de frustration.
Mais même ça va au-delà du Canadien. Je fréquente beaucoup de jeunes joueurs de hockey. Un, c'est pas, ils prennent pas tous pour le Canadien. Là, même j'ai un de mes fils qui prend pour les Hurricanes de la Caroline, je sais pas pourquoi. Mais l'autre chose aussi, les compétitions internationales.
À cause de leur cérémonie d'après-match, peut-être.
Mais les matchs internationaux aussi sont très suivis. Les Jeux olympiques, le but de Sidney Crosby à Vancouver en 2010, les deux fois où Marie-Philippe Poulin a marqué le but gagnant. Absolument. Et les championnats mondiaux juniors nous ont quand même donné du très bon hockey récemment. Quand ils sont venus à Montréal, il y a quand même eu une finale en tir de barrage impliquant le Canada où Thomas Chabot a joué, je pense, 45 minutes dans le match. Ça aussi, là, c'est des grands moments de hockey. Puis en fait, ça fait partie le nouvel écosystème pour les jeunes. C'est plus juste le Canadien, c'est aussi l'équipe Canada, ce qui était moins le cas. Moi, quand j'étais jeune, Coupe Canada, c'était un tournoi de démonstration, je sais pas comment dire ça, le tournoi d'exhibition.
Un tournoi du mois de septembre.
Ouais, c'était pas important, honnêtement, c'était le fun, rendez-vous 87, des choses comme ça, mais ça avait pas la même charge émotive que je pense qu'on a présentement.
L'aspect divertissement, je disais qu'on s'était fabriqué des moments, veut pas l'aspect, on a vu Vegas, comment ils sont entrés dans la ligue, l'aspect divertissement prend de plus en plus de place également, on le soulignait dans une conversation, t'en parlais en coulisses tout à l'heure, et dans cet ordre d'idées aussi, l'arrivée des tirs de barrage, de la fusillade a fait que je me rappelle de soir où des fois le spectacle était comme ci, comme ça, puis là, fin de match, prolongation, tir de barrage, puis on sortait de là tout excité. Souvent, ça a comme sauvé le show,
c'est
ça a donné
gros
le show.
Plus, Mario, la première fois de ma vie où je suis allé comme fan au Forum, j'ai payé mon billet, le match a terminé 0-0. Je trouvais pas ça super le fun. Mais la tir de barrage, mais aussi le 3.
Avant les tirs de barrage,
le 3 contre 3, moi j'adore ça. Le 3 contre 3,
spectaculaire.
C'est extraordinaire, vraiment. Moi, je me demande même, ça fait plusieurs fois que j'en parle, mais je pense que le hockey dans le futur se jouera peut-être plus à 5 contre 5, 5 attaquants contre 5 attaquants. Moi, j'aimerais ça que ce soit 4 contre 4 éventuellement.
Je pense que ça va être un produit dérivé. Tu regardes le foot, ils vont jamais tuer la base. Comme le soccer, tu as du soccer de plage, tu as du volleyball de plage.
Ils ne tueront jamais, je ne suis pas certain, parce qu'il y a des sports où, notamment le cricket qui jouait sur 5 jours, il y a un nouveau modèle qui existe qui se joue en 2 et qui est vraiment beaucoup plus populaire. Le
parce
rugby,
qu'en partant, ça n'avait pas d'allure, ils n'ont pas eu le choix.
Mais tu sais, le rugby aussi se joue à 7 maintenant, qui s'est joué traditionnellement à 15. Oui. Moi, je ne serais pas surpris que dans les 10 prochaines années, pour le spectacle, quelqu'un va peut-être tenter une expérience extrême puis y aller, OK, vous allez jouer à 4 contre 4.
Si j'avais à fonder un circuit rival à la Ligue nationale de hockey, comme l'AMH dans le temps, peut-être que je m'en irais dans une
absolument. Et au baseball, on ne lancerait sûrement pas ça à 9 manches puis 9 joueurs non plus.
Vous savez là, qu'aux Jeux olympiques de Tokyo, en 2020, il y a une nouvelle compétition. Là. C'est le basket 3 contre 3, avec un seul panier. Puis c'est un sport olympique. Il va y avoir une médaille. Là, ça va être spectaculaire.
Le volleyball, le hockey se joue à 2 contre 2 aussi. Je veux dire, le volleyball de plage, je joue à 2 contre 2 et non plus à 6 joueurs.
On peut présumer que le hockey va accoucher de quelque chose.
Que oui, parce que de toute façon, les glaces sont rendues trop petites, c'est dangereux. Puis là, je comprends, là, en Europe, ils veulent encore réduire les glaces pour faire comme en Amérique du Nord, mais moi, je pense que d'ici 10 ans, il va y avoir une nouvelle proposition qui va exister.
Comme quoi, les gars, il y a quand même de légères consolations, parfois, même pour un journaliste ou commentateur sportif ou pour l'amateur dans un marché qui n'a pas célébré de Coupe cette année depuis 26 ans. Si je vous demande, on a pigé ici-là dans quelques matchs mémorables. Si je vous demande quel a été pour vous le joueur du Canadien qui vous a le plus satisfait, qui vous a donné le plus de valeur, divertissement, que je sais pas comment vous présenter la question, mais vous savez exactement ce que
depuis,
je veux dire.
Depuis 1993, depuis la dernière coupe, non incluse.
Non incluse.
Vas-y, ouais. Alex. Oh.
Moi, j'ai envie de dire Kovalev.
OK.
Kovalev, Halak. Ben, l'entertainment, la valeur, il pouvait changer un match. Il y a eu un boss quand il est arrivé ici, tout le long qu'il était ici, même quand il jouait pas bien, que c'est le monde sacré parce qu'il se présentait un match sur deux. Je veux dire, ça a été, la réunion Koivu-Kovalev, ça a donné quelque chose, là, tu sais, c'est passé. Puis Halak, le printemps Halak, là, c'est, Halak et Kovalev, ouais.
Ah, ben, moi, je mettrais Halak, très certainement. Je mettrais Subban aussi. Ouais. Moi, je pense que Subban, en 2014, ce qu'il a fait, là, tu sais, on parle qu'aujourd'hui, c'est Subban, c'est Price Weber. Ouais. Mais, tu sais, en 2014, c'était Price Subban, là, la façon dont il a joué dans ces séries-là. Je pense que c'était spectaculaire.
Il est dans le top 3 des entertainers hockey à Montréal des 25 dernières années. Sûr. Et peut-être numéro 1, mais c'est dans la catégorie Kovalev, tu sais, des rôles différents. Peut-être que ça a été plus gros encore. Parce qu'on l'a repêché.
C'est des joueurs qui, peu importe que tu y ailles ou tu l'écoutes devant ta télé, puis bon, la majeure partie des gens écoutent ça devant la télé. Quand tu ouvres ta télé, est-ce que tu as le goût de voir jouer un joueur en particulier? Tu veux voir jouer le Canadien? On s'entend tous là-dessus, mais en regarder un en particulier. Puis ça, il y a eu des années, le Canadien, là, quand c'était Gionta, la vedette, est-ce que tu as vraiment le goût de respect pour Gionta, as-tu le goût d'ouvrir la télé?
Non,
hey, ce soir, je vais voir Brian Gionta puis Mike Camilleri, pas sûr.
Les trois premières années où j'ai couvert le Canadien, là, c'est de 99 à 2001, ils ont raté les séries les trois ans. Là, c'était Jean-Joseph Balay, puis Richard Zennick, puis Sergei Joltok. Il n'y en avait pas de spectacle. José Théodore, quand même, a été un joueur absolument spectaculaire pendant des années. Il a quand même gagné le trophée.
Merci de le rappeler.
Moi, j'ai...
Sans Théodore, la magie Koivu n'est pas la magie Koivu, parce qu'il faut toujours remettre dans le contexte, dans mon humble vision et perception des choses, que même Sakou n'a pas trop compris, parce que c'est pas le premier qui revenait. C'était gros, le gars revenait d'un cancer, puis on était attachés, puis avant, tu sais, tout le monde... Il incarnait plus l'espoir de Sakou Koivu avant de vivre ça parce qu'il était tout le temps blessé. Puis là, le monde, tu sais, il avait déchanté sur ce premier choix qui nous faisait rêver. Puis là, pouf. Et là, tout à coup, après le cancer, il arrive. Puis à nouveau, au moment qu'on a besoin de n'importe qui va nous faire faire les séries, on vient de manquer 3 années de suite. Lui vient nous aider à faire les séries le soir qui revient du cancer. On les fait ce soir-là.
C'est la
combinaison des deux qui crée l'événement. On fait des séries, puis il revient du cancer. Un sans l'autre, c'est pas la même affaire. Et Théodore, s'il est pas là, ça arrive.
Théodore, en fait, c'est lui qui a sauvé, honnêtement, la franchise à cette époque-là. Écoutez, là, à l'époque, puis j'écrivais beaucoup là sur la sport business à l'époque, tu sais, il était question que le Canadien déménage. Là. Il y avait vraiment des experts qui pensaient que le Canadien était pour déménager. Le club a été vendu pour une bouchée de pain à George Gillett.
Un Américain, parce qu'il y avait personne au Québec qui voulait acheter le Canadien.
Exactement,
c'était
rendu
réalité,
un gros risque, le Canadien. Le Canadien venait de sortir de 3 saisons extraordinairement horrible de suite. Et José Théodore, honnêtement, a redonné de la valeur à cette
Et le dollar canadien était encore bien plus faible qu'aujourd'hui.
C'est José Théodore là, qui a relancé cette franchise.
Vraiment.
Sérieusement, s'il n'avait pas été là, si on avait continué avec Jeff Hackett, l'éthergie, ça serait poursuivi pendant 4, 5, 6, 7 ans, ça aurait été encore pire.
C'est difficile de parler au nom de ceux qui ont de l'argent ou de les critiquer, parce que moi, je suis pas une fortune, je suis pas issu d'une fortune, mais on est obligé de commenter le comportement de ceux qui avaient de l'argent à cette époque-là.
Ça prenait de la
autant
vision,
pour les Nordiques de Québec, autant pour les Expos de Montréal, autant pour le Canadien de Montréal. Je sais pas s'il y en a parmi vous à l'écoute là, qui étiez en position de... C'était pas fort, messieurs.
La
vision qui vous animait à l'époque, ou l'audace dont il aurait fallu faire preuve pour préserver des actifs indispensables.
Ben, Mario, avant le lockout de 2004, là, c'était vraiment difficile de voir un très bel avenir pour la Ligue nationale. Le jeu était pas très excitant. Il y avait beaucoup d'accrochages, mais le partage des revenus était pas...
Alexandre,
c'était un autre game.
Tu sais, ça me fait penser, OK, c'est correct, mais c'est comme ça, ce discours-là me fait penser à quelqu'un qui analyse le Canadien. Ouais, mais là, ils s'en vont dans l'Ouest, là, ils vont pas. Ouais, mais là, les gars, ils ont produit beaucoup dans le passé, ils ont produit. Tu sais, on cherche toujours l'affaire qui va péter, tu sais. Mais à un moment donné, avoir une vision, c'est dire, non, oui, ça va être difficile, mais on s'en va là. Puis dans ce temps-là, clairement, dans l'élite économique qu'au Québec, avec les trois dossiers qu'on a analysés, c'est pas.
Ben, en tout cas, tu regardes ce que ça aurait pris à l'époque pour sauver les Nordiques et les Expos. Et ce que ça coûterait aujourd'hui
les Expos, c'est incroyable. On parle de 15 millions de dollars, les Expos. Là, c'est incroyable quand tu y penses. Là.
Et aujourd'hui, c'est quoi, là? Disons, une équipe à plein temps, là, oublions la garde partagée un instant, une équipe à plein temps, mais un nouveau stade, là, une équipe d'expansion, c'est une fracture de 2 milliards US.
Mais ça a quand même beaucoup changé. Je veux dire, les Expos perdaient 20 à 25 millions par année sur un budget d'opération d'en bas de 100 millions, probablement. Aujourd'hui, il commence l'année, un club avec 120 millions dans ses poches, ça a changé.
C'est plus la même chose.
Complétons avec un court exercice de futurologie. Qu'est-ce que vous voyez comme grand événement que nous allons célébrer dans les 10 prochaines années à Montréal? Je vais pas dans les 25, on va se perdre en chemin, mais vite fait, là, juste pour finir sur une note d'espoir, messieurs.
OK, ben moi, je vais y aller avec l'espoir, le retour des Expos.
OK. J'aimerais ça. Des vrais Expos ou la moitié des Expos, des Rays?
Non, ben pour moi, c'est le retour des vrais Expos, parce que je pense que si c'est avec les Rays, d'abord, ça s'appellera pas les Expos, parce que je vois pas pourquoi les Rays, d'un coup, ça s'appellerait les Expos.
Le retour des Expos.
Le retour des Expos, ça, j'aimerais ça.
C'est bon, Philippe?
Moi, je pense qu'Alexis Lafrenière va jouer pour le Canadien, mais pas immédiatement. Pas immédiatement, mais je pense que dans la prochaine décennie, on va le voir. Un petit peu comme Pierre Turgeon, qui avait été un premier choix total, est venu avec le Canadien, là, en 95, 96, dans ces années-là, un petit peu dans la série. Je pense qu'il va être un joueur dominant. Il va être absolument spectaculaire à voir, mais je pense qu'il va finir la décennie avec la Canadien.
Alex, tu devrais ajouter ce que tu m'as dit l'autre jour, que tu as dit devant public, c'était qui allait être le meilleur athlète au Québec, qui allait faire courir les foules partout.
Je suis convaincu que Félix Auger-Aliassime va être l'athlète de la décennie.
Ben, j'avais envie de dire qu'Auger-Aliassime va gagner un grand chelem, mais juste avant, quelque chose qui va arriver plus vite que ça, là, le Canadien en série cette année et en finale de conférence. Non, je voulais juste voir si vous étiez encore réveillé. Mais,
écoute, je pense que tu peux profiter des ventes d'après Noël pour aller acheter ta chaise pour le défilé.
Une finale de conférence. Une finale de Coupe Stanley. Finale de Coupe Stanley.
Mathématiquement, le Canadien a comme 65% des chances de faire une finale de Coupe Stanley.
Attends un petit peu, parce que la vision se précise d'ici 5 ans. Une finale. Une finale. Philippe, étouffe-toi.
Pourquoi pas? Ben non, mais pourquoi pas? Dans 5 ans. Mais là, est-ce que l'échange de Lafrenière
arrive avant ou après?
J'étais à cheval sans clôture. J'étais à cheval. Je sais pas.
Mais écoute, avec Lafrenière, oui.
On regarde-tu si son stock descend? Oh, boys. Hein, les gars. Avec quel sujet qu'on n'est pas capable de faire? J'espère que vous avez du plaisir. Vous avez eu du plaisir au cours de la dernière heure, tout le monde, et ceux qui sont à l'écoute également. Puis peut-être que ça va générer des échanges du temps des fêtes. Avez-vous entendu les malades à qu'est-ce qu'ils nous ont dit là, eux autres? Ça n'a pas d'allure. Les gars, c'est toujours un vrai plaisir de faire ça avec vous autres. C'est nouveau dans ma vie de gars de radio, comme pour vous de gars de médias, de faire le balado. J'ai bien du fun ça.
Merci pour ton animation, Mario.
Merci à vous, les gars.
Une très belle saison.
Joyeuses fêtes. Au plaisir de vous retrouver pour notre prochain balado début janvier. Ciao, ciao.
Salut tout le monde.
Le bon vieillard descend. Je revois tes yeux clairs, maman. Et je songe à d'autres.